cet affichage qui sont montés dans chaque commune, n'est-ce pas, le panneau gris qui dit « Défense d'afficher » là-dessus. Moi, je suis toujours impressionné que les gens respectent ça, ici à Woluwe en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres communes. Et quand, petit à petit, on commence à mettre des affiches, des visages, des gens qui veulent être élus, qui veulent qu'on vote pour eux. Et c'est fascinant, les élections, parce qu'on on voit le diagnostic des politiciens de notre monde. Qu'est-ce que les politiciens comprennent est vraiment le problème dans notre société? On voit ça dans les slogans. Le parti écolo, il veut prendre soin de la planète, vraiment, avant toute autre chose. Le MR, un pays stable, prospère et innovant. Je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais c'est bien. Défi, le nouveau parti, ce qui est juste, ce qui est juste, c'est très bien. Le parti socialiste, bien sûr, c'est le socialisme qui sous-entend. On voit l'analyse de ces politiciens et aussi la solution qu'ils proposent pour un monde meilleur. C'est intéressant ce que les politiciens disent. Mais qu'est-ce que Dieu pense lorsqu'il voit notre monde, notre société actuelle? Quel est son diagnostic? Qu'est-ce que lui pense être le problème? Et quelle est son analyse? Quelle est sa solution? Quelle est la solution qu'il propose face à cela? Ce serait fascinant, n'est-ce pas, de savoir ce que Dieu, le Créateur de l'univers, pense. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne devons pas deviner, parce que Dieu est déjà venu dans son monde. Dans la personne de Jésus, Dieu s'est fait chair et il est venu parmi nous. Et il a regardé autour de nous, il a constaté ce qui n'allait pas. Et il nous a donné son diagnostic et sa solution. Et c'est ce que nous voyons au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Et il nous apprend comment nous devons voir le monde qui nous entoure. Et c'est très, très utile pour nous. Mais nous commençons verset 35 avec un peu un résumé de ce que nous avons vu ces dernières semaines. Qu'est-ce que Jésus a fait? Mais on voit qu'il est l'homme le plus remarquable qui ait jamais marché sur cette terre. Verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus possède une autorité époustouflante, nous l'avons vu, pour enseigner. Il a enseigné comme personne d'autre dans l'histoire. Et là, on s'est enseigné sur le royaume de Dieu, un royaume qui va venir un jour, un monde parfait, sans souffrance. Et il nous a dit comment nous pouvons y entrer. C'est par sa mort à la croix. Et il a guéri toute maladie et toute infirmité. Il vidait les cliniques de l'époque. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? Tous les malades venaient à lui guéris dans un instant. Les morts ressuscités. Dieu était venu sur terre dans la personne de Jésus. Il montre qu'il est le roi divin et qu'il va créer ce nouveau monde sans souffrance, le royaume de Dieu. Nous avons vu son autorité. Mais ici, nous voyons un autre côté de Jésus. Et c'est sa compassion, sa compassion. Et ça, c'est la première chose que nous voyons dans ce chapitre. Nous devons imiter la compassion de Jésus. Imiter la compassion de Jésus. Relisons le verset 36. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Que voit Jésus ici? Il voit une foule de personnes. Mais comment les voit-il? Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors moi, je ne suis pas expert dans ce domaine, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose pour les brebis de se retrouver sans berger. D'ailleurs, nous avons entendu cela dans la lecture en Ézéchiel dans l'Ancien Testament. S'il n'y a pas de brebis, et puis s'il n'y a pas de berger, il n'y a pas de protection pour les brebis. Il n'y a pas la nourriture suffisante pour les brebis. Le berger protège, il nourrit, et sans berger, les brebis sont perdues et en proie à toutes sortes de dangers imaginables. Israël était décrit, nous l'avons vu en Ézéchiel, comme des brebis sans berger. Parce que les bergers de l'époque, les rois et les prêtres, n'avaient pas fait leur boulot. Et Dieu dit qu'il viendra lui-même être le berger de son peuple. Il va venir lui-même sauver son peuple. Et donc lorsque Jésus dit, ces gens sont comme des brebis sans berger, il est en train de dire, mais c'est moi le berger, c'est moi qui suis Dieu, et ces personnes sont perdues sans moi, sans Jésus. Les personnes sont perdues sans Jésus. Et Jésus dit que ces gens ne sont pas bien. Ils sont languissants et abattus, harassés ou blessés, abattus, sans direction dans la vie, sans quelqu'un qui peut les protéger, leur donner le sens de la vie. Ils sont vite exploités par d'autres qui veulent profiter d'eux. Ils suivent la foule. Ils sont perdus sans Jésus. Et ce serait bien de se poser la question, sommes-nous conscients que si nous vivons sans Jésus comme notre roi, nous sommes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ce n'est pas ce que la société nous dit. N'est-ce pas? La société dit que si on suit Jésus, on est plutôt dans le mauvais camp. On n'a aucune idée de ce qui se passe réellement dans le monde si on suit Jésus. Mais Jésus dit que c'est le sens inverse. Si nous ne suivons pas Jésus, nous n'avons pas de direction dans la vie. Nous sommes abattus, harassés. Et si nous sommes croyants en Jésus-Christ, nous devons nous poser la question, est-ce que nous voyons la société qui nous entoure de cette manière? Lorsque vous arrivez au boulot et vous regardez les gens autour de vous, que voyez-vous? Plus des gens comme vous, plus ou moins sympas? Ou voyez-vous des gens perdus, car ils ne connaissent pas Jésus? C'est un défi, je pense, de voir le monde de la façon dont Jésus le voit. Ou quand nous sommes dans les embouteillages, voyons-nous les autres dans les voitures juste comme des gens qui nous embêtent parce qu'ils nous empêchent d'arriver au travail à temps? Ou voyons-nous ces personnes comme des gens perdus sans Christ? Mais parfois, il est assez facile de constater si les gens ne reconnaissent pas Jésus comme leur roi, lorsque les politiciens mentent ou sont corrompus, lorsqu'ils promeuvent des politiques en faveur de l'euthanasie ou de l'avortement. Ou lorsqu'on voit les manifestations violentes des gilets jaunes en France, on voit clairement des gens qui sont sans direction, qui n'ont pas Christ dans leur vie. Moi, j'ai hâte d'habiter de nouveau à Louvain-la-Neuve. On veut y déménager cet été. Mais une chose que je redoute un petit peu, c'est toutes les fêtes étudiantes qui se passent là-bas, les 24 heures vélo. Si vous avez entendu parler de ça, nous avons habité 2 ans à Louvain-la-Neuve et nous avons traversé la ville durant les 24 heures vélo. Et c'était dégoûtant ce qui se passait. C'était une excuse pour boire. La course de vélo n'a rien à faire là-dedans. Mais c'est une excuse pour boire pendant 24 heures. Les étudiants sont dans un état lamentable, la ville aussi. Nous avons dû traverser la ville le lendemain à pied pour aller à la gare, vomissements et pipi partout. Et ma réaction face à cela, c'était une réaction d'indignation, de dégoût presque face à cela. Tous ces jeunes qui ne connaissent pas Christ et qui font n'importe quoi. Mais la réaction de Jésus dans ce passage me reprend vraiment. Il regarde autour de lui, il voit les gens qui sont perdus sans lui, et qu'est-ce qu'il ressent? Verset 36, il fut ému de compassion. Ému de compassion. C'est un verbe très fort. La vue de la foule, ces gens lui a pris aux tripes. Combien de fois je manque de compassion pour les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas encore Jésus. Il y a un pasteur qui a travaillé au Canada, qui parlait, une fois il voulait aller nager dans un lac tranquille, avec un ami pasteur pour passer la soirée parce qu'il voulait se reposer. Mais lorsqu'ils se sont rendus sur place, ils voyaient qu'il y avait une fête de jeunes brillantes là-bas. Il y avait des jeunes partout qui faisaient des choses terribles. Il était frustré, énervé par tout cela. Et il se tournait à son ami pour dire, il voulait râler par voir ça. Et le pasteur a juste regardé la foule. Il a dit, les jeunes, quel genre de mission. Les jeunes, quel genre de mission. C'est ça la compassion dont fait preuve Jésus ici, n'est-ce pas? La compassion. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'indignation face à ceux qui déshonorent Dieu. Bien sûr, il y a bel et bien de la place pour cela. Il ne faut pas faire preuve d'une compassion, entre guillemets, qui élimine toute analyse critique concernant le comportement des gens. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans le sermon sur la montagne, a dit que toute la race humaine est mauvaise et méchante. Et plus tard, au chapitre 23, il va fustiger les scribes en les maudissant pour le mauvais comportement. Donc on peut être indigné. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons aussi faire preuve de compassion. Nous devrions être pris au trip que les gens que nous connaissons, les gens qui nous entourent au travail, dans notre immeuble, dans le métro, dans le bus, ne connaissent pas Christ. Imitons la compassion dont Jésus fait preuve ici. Mais quelle est l'analyse de Jésus de cette situation, de ce monde? S'il a compassion, s'il fait preuve de compassion parce que les gens sont perdus sans Christ, qu'est-ce qu'il propose comme solution? C'était bien sûr impossible pour lui-même d'aller annoncer le message de sa bonne nouvelle à toute personne habitant au Moyen-Orient. Il était limité dans l'espace et le temps à cause de son incarnation. Pour aider, il a recruté 12 hommes, les disciples, pour aller prêcher ce message. Mais 12 hommes plus Jésus, ça reste peu, finalement. Et donc Jésus constate quelque chose d'important au verset 37. Il dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et nous devons reconnaître le besoin criant d'ouvriers dans la moisson. Jésus change de métaphore ici, il ne parle plus de brebis ou de bergers, mais maintenant de champs, de moisson, de récolte, d'ouvriers. On peut imaginer les champs que peut-être quelque part en Wallonie, dans les Ardennes, des champs qui sont prêts pour la moisson. Le blé ou bien le maïs, la récolte n'attend qu'une chose, que les ouvriers viennent pour récolter la moisson. Mais il y a un problème, il y a une pénurie d'ouvriers pour la moisson. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas suffisamment. Mais Jésus dit que c'est la même chose dans le monde, la moisson est grande. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui doivent encore entendre le message de l'Évangile. Des gens, en quelque sorte, qui n'attendent que ça. D'entendre le message de l'Évangile. Dieu est venu dans notre monde pour mourir à la croix, pour nous réconcilier à Dieu, nous offrir la vie éternelle. Le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers pour annoncer l'Évangile. C'était le cas à l'époque de Jésus, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Lorsque Jésus parle d'ouvriers, cela peut être des gens qui sont mis à part à temps plein, qui n'ont pas de boulot, à part être pasteur, évangéliste ou ancien, et qui peuvent se consacrer à temps plein pour annoncer l'Évangile aux autres. Ou bien, ça pourrait être des responsables de jeunesse et d'autres choses comme ça à temps plein. Ou ça pourrait être tout chrétien qui œuvre en faveur de la moisson, là où il se trouve, avec les contacts qu'ils ont. Mais le constat reste d'actualité. La moisson est grande. La population du monde, c'est quoi, quiz? Population mondiale 2019? 7,7 milliards, je pense, peut-être 8, peut-être la raison. Mais 7,8 milliards de personnes. Et on estime que le nombre de personnes qui n'ont pas accès au message de l'Évangile, ce que nous appelons les peuples non atteints par l'Évangile, ça s'élève à 3,1 milliards de personnes. 40% de la population mondiale qui n'a pas un accès facile à l'Évangile. C'est énorme. Dans le monde francophone, en France, il y a 67 millions d'habitants, je pense, les Français peuvent me corriger. Et nous estimons que le pourcentage de chrétiens évangéliques qui sont attachés à la parole et à l'Évangile est de 1,2%. Il y a plus que 60 millions de personnes en France qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. La moisson est grande. Ici en Belgique, un pays moins grand, mais avec une grande moisson quand même, le pourcentage de chrétiens évangéliques, c'est plus ou moins semblable à celui en France, 1,2%. Et il est vrai qu'il y a peu d'ouvriers. Il y a des villes et des villes sans témoignage évangélique fidèle et pertinent. Si vous allez faire vos vacances, si vous partez en vacances parfois dans les Ardennes, vous allez traverser des villages et des villages. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces villages? Il n'y a rien. Il y a souvent une église catholique, mais très 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 rarement une église protestante qui essaie de mettre la parole de Dieu au centre. Il y a des églises sans pasteur. Nous avons vu cela. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui rêvent de devenir pasteurs chez nous. Il n'y a pas beaucoup de parents chrétiens qui encouragent leurs enfants à réfléchir à la possibilité de devenir pasteur ou ancien dans les églises. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons reconnaître le besoin criant de plus d'ouvriers, plus de personnes qui peuvent être mises à part à temps plein pour la proclamation de l'Évangile. En êtes-vous conscient? C'est frappant, le diagnostic de Jésus, c'est que le monde est perdu sans lui. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Pour lui, la solution ultime n'est pas d'avoir plus de médecins, même si ça serait une bonne chose, d'avoir plus d'hommes et de femmes politiques, plus de personnes qui travaillent dans les NGO, pour des ASBL, des œuvres caritatives. Non, ce que Jésus dit, c'est qu'il faut plus d'ouvriers, plus de personnes qui peuvent œuvrer dans la moisson, plus de personnes qui peuvent annoncer le message de Jésus à un monde perdu. Mais que faire alors? Peut-être nous devons réfléchir à comment motiver les jeunes à penser à devenir pasteur ou responsable jeune. Ou peut-être on pourrait encourager les étudiants qui sont diplômés de faire un an de stage dans une église locale pour goûter au ministère. Peut-être on devrait recruter plus pour l'Institut biblique belge. Peut-être on devrait donner plus d'argent pour que ces personnes puissent être libérées des contraintes du travail afin de pouvoir se consacrer à la moisson. Ce sont des bonnes choses à faire. Mais c'est intéressant, ce n'est pas la première chose que Jésus nous demande de faire ici. Jésus dit qu'avant tout, nous devons prier. Prier que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. La troisième chose que nous voyons, prions que Dieu suscite des ouvriers pour sa moisson. Verset 38. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. C'est la première chose que nous devons faire. Mais malheureusement, je parle pour moi-même, c'est souvent la dernière chose que nous faisons. Pourquoi devons-nous prier? Car Dieu est le maître de la moisson. Nous voyons ça dans ces versets. C'est son message de l'Évangile. C'est lui qui veut que l'Évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre, que tous ces peuples non latins entendent parler de Christ au Côte d'Ivoire et ailleurs. C'est lui qui a un plan de sauver tous ceux qu'il a choisis. Et c'est lui qui fera en sorte que les ouvriers seront envoyés au bon moment, au bon endroit, pour apporter l'Évangile à cette personne. Nous prions car, ultimement, il s'agit d'une œuvre de Dieu. Nous comptons sur Dieu. C'est lui qui doit susciter les ouvriers. C'est lui qui doit équiper, qualifier, appeler les gens pour qu'ils œuvrent, pour partager la bonne nouvelle. Et que devons-nous lui demander? Jésus dit qu'il faut lui demander d'envoyer les gens, les ouvriers dans la moisson. Et le verbe envoyer est suggestif ici, c'est le même mot utilisé lorsque Jésus chasse un démon. Il chasse un démon, et ici nous devons prier que Dieu envoie, suscite des ouvriers un peu partout dans le monde que Dieu a créé. Ici on dresse une liste des choses pour lesquelles nous avons prié le mois passé. Est-ce que cette prière figurerait sur la liste? Que Dieu envoie des gens, que Dieu suscite des vocations pour des futurs pasteurs et anciens. Nous devons prier que Dieu suscite des ouvriers dans le monde entier, en Inde, en Sri Lanka, en Australie, en Azerbaïdjan, au Congo, au Bénin, au Togo, en France, en Suisse, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg. Nous devons prier que Dieu suscite des personnes pour travailler dans les cités, auprès des musulmans, des juifs, des personnes de l'arrière-plan catholique, dans les villes universitaires et ailleurs. Nous devons prier que Dieu envoie des ouvriers pour œuvrer parmi les immigrés et auprès des Belges de souche, auprès des personnes âgées et auprès des enfants. Nous devons prier que Dieu motive les jeunes dans nos églises à réfléchir à la possibilité de se former à l'Institut biblique. Nous devons prier que nos fils ou les enfants dans notre église nous disent qu'un jour ils aimeraient devenir anciens pasteurs et que nous soyons prêts à les encourager dans ce choix. Nous devons prier que Dieu pourvoie les finances nécessaires afin que les gens soient envoyés en mission avec un vrai soutien financier des églises et en région. Ou bien que chaque église puisse payer le salaire de son pasteur. C'est super quand on soutient le projet 938. On donne de l'argent pour que les pasteurs soient à temps plein dans les églises pour se consacrer à l'œuvre de la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et les deux pasteurs qui aident ce projet, qui sont financés par ça, Grégory et Yves, grâce à ce projet, il y a des gens à Jemelle dans les Ardennes qui entendent l'évangile. Et Grégory, il va dans les prisons là-bas, il évangélise les prisonniers. Il y a des gens qui se tournent à Christ parce que Dieu a répondu aux prières, suscité d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus est ému de compassion devant un monde qui ne le connaît pas. Nous devons imiter sa compassion. Et Jésus reconnaît qu'il y a un besoin criant d'ouvriers pour la moisson. Mais nous devons le reconnaître également. Et nous devons prier de mettre la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pourrions-nous, en tant qu'Église, nous engager à prier cette prière plus souvent? Peut-être on pourrait commencer dès ce mardi-ci, à la réunion de prière, en priant que Dieu suscite parmi nous des ouvriers pour sa moisson. Et nous pourrions incorporer cela dans nos prières à la maison, que Dieu suscite des personnes partout dans son monde qui vont partager le message de l'Évangile avec les personnes qui les entourent. Mais ce ne serait pas juste de terminer là, car après avoir exhorté ses disciples à prier, qu'est-ce que Jésus fait, versets 1 à 4, avec ses disciples? Il les envoie en mission. Dans les disciples, ils venaient de prier que Dieu envoie des gens, et puis, en quelque sorte, ils représentent la réponse de Dieu à leur propre prière. Ils sont envoyés eux-mêmes. Avec le message verset 7, qu'est-ce qu'il doit dire? Le royaume des cieux est proche, car le roi est là. Jésus, le roi, est celui qui va créer ce nouveau monde sans souffrance. Et c'est lui qui va mourir à la croix pour nous y donner accès. Nous ne sommes pas des apôtres, bien sûr, et donc nous n'avons pas exactement les mêmes pouvoirs que les apôtres avaient pour guérir et ressusciter des morts lorsque nous partageons l'Évangile. Mais nous avons l'Évangile qui ressuscite les morts spirituellement. Nous avons l'Évangile qui promet la vie éternelle et le pardon de tout péché, de tout faute, pour toute personne qui fait appel à Christ. Et donc, nous devons être prêts, avant de prier que Dieu envoie des gens dans la moisson, nous devons être prêts, nous-mêmes, à ce que Dieu nous envoie dans la moisson. Donc, on ne sera pas tous envoyés loin, dans un autre pays, pour proclamer l'Évangile, mais peut-être pour certaines personnes ici, ce serait la chose appropriée pour vous. On ne sera pas tous à temps plein dans l'Église, loin de là. Mais peut-être pour certaines personnes, ce serait bien d'envisager cela. Mais pour nous tous, nous pouvons œuvrer pour la moisson là où nous nous trouvons, demain matin, avec nos collègues, avec nos voisins, avec les membres de notre famille qui ne connaissent pas Christ, qui sont comme des brebis, qui n'ont pas de berger. Faisons preuve de la même compassion qu'avait Jésus. Faisant le même constat, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Et soyons prêts à être envoyés lui-même en mission. Prions ensemble. Notre Père, te louons pour le Seigneur Jésus. Merci pour sa compassion envers ce monde perdu sans lui. Mais nous te prions que nous puissions faire preuve de cette même compassion, Seigneur, devant les gens qui ne te connaissent pas. Pardonne-nous des fois où notre réaction face à ce monde s'est limitée à une réaction d'indignation ou de dégoût. Pardonne-nous. Et Seigneur, que tu nous donnes, tu nous remplisses de compassion envers les autres qui ne te connaissent pas encore. Que nous puissions faire le même constat que Jésus, que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Et que nous puissions te prier d'envoyer des ouvriers partout dans ta moisson pour ces 3,1 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'Évangile actuellement. Seigneur, nous te prions d'envoyer des ouvriers pour la France, avec ses 60 millions de personnes qui ne te connaissent pas encore. Nous te prions de susciter, d'envoyer des ouvriers. Et pour la Belgique également, avec si peu de personnes qui connaissent Jésus comme leur Seigneur Sauveur. Que tu suscites des ouvriers pour chaque coin de ce pays. Et que nous soyons prêts, Seigneur, à œuvrer dans ta moisson, là où tu nous as placés. En partageant la bonne nouvelle de la mort de Jésus avec le proche. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.